Société par action, suffrage censitaire, quelle limite au pouvoir monétaire ? Cette expérience suédoise montre également que l'idéologie propriétariste n'est pas monolithique et a toujours besoin de remplir une certaine forme de vide ou d'indétermination politique, ce qui peut parfois l'amener très loin dans la voie de la contrainte et de la domination sociale de certains groupes sur d'autres. L'idéologie propriétariste repose sur une idée simple. L'ordre social et politique doit se fonder avant tout sur la protection du droit de propriété privée, à la fois pour des raisons d'émancipation individuelle et de stabilité sociale. Mais cette prémisse laisse largement ouverte la question du régime politique. Elle implique certes qu'il peut être préférable d'accorder plus de pouvoir politique aux propriétaires, mieux à même d'avoir une vision de long terme et de ne pas ruiner l'avenir du pays dans la satisfaction de passions immédiates. Mais elle ne permet pas de déterminer jusqu'où il convient d'aller dans cette direction et suivant quelle modalité. Dans le système censitaire britannique et dans la plupart des pays européens et des sociétés de propriétaires, les choses étaient relativement simples. Les citoyens étaient rangés en deux catégories. Ceux qui étaient suffisamment riches étaient considérés comme citoyens actifs et disposaient d'une voix pour choisir les députés aux communes. Ceux qui ne remplissaient pas cette condition devaient se contenter d'être citoyens passifs, sans aucune voix ni représentation aux communes. L'absence du secret des urnes jusqu'en 1872 permettait aux plus grands propriétaires et aux électeurs les plus puissants d'influencer d'autres voix, mais cela se faisait indirectement et non pas explicitement au travers des votes multiples à la suédoise et d'une graduation des droits au sein des citoyens actifs. Le régime censitaire appliqué en France de 1815 à 1848 était très proche de celui en vigueur à la même époque au Royaume-Uni, où avait d'ailleurs séjourné une bonne partie de la grande noblesse française de 1789 à 1815. Le système parlementaire comptait une chambre des pairs, composée principalement de pairs héréditaires nommés par le roi au sein de la haute noblesse à la façon de la chambre des lords, et une chambre des députés, élu suivant un suffrage censitaire encore plus restreint que celui appliqué pour la Chambre des communes. Les juristes de la monarchie française introduisirent toutefois une innovation, puisqu'il existait deux catégories de citoyens actifs. Lors de la première restauration, de 1815 à 1830, étaient électeurs les hommes de plus de 30 ans, acquittant au moins 300 francs d'impôt direct au titre des « quatre vieilles », soit environ 100 000 personnes, à peine plus de 1% des hommes adultes. Mais pour être éligible comme député, il fallait être âgé de plus de 40 ans et acquitter plus de 1 000 francs d'impôts directs, environ 16 000 personnes, soit moins de 0,2% des hommes adultes. La loi du double vote, promulguée en 1820, introduisit également la possibilité pour le quart des électeurs censitaires les plus fortunés, c'est-à-dire approximativement les éligibles, de voter une seconde fois pour désigner une partie des députés. À la suite de la Révolution de 1830, le suffrage fut légèrement élargi. Le nombre d'électeurs sous la monarchie de Juillet, 1830-1848, passa à un peu plus de 2% des hommes adultes et le nombre d'éligibles fut porté à environ 0,4% des hommes adultes. Mais l'on conserva le principe des deux catégories de citoyens actifs sans chercher à pousser plus loin cette logique. Au Royaume-Uni, la Chambre des communes comptait également depuis le début du XVIIe siècle et jusqu'en 1950 des « university seats », permettant de facto aux diplômés d'Oxford et Cambridge de voter deux fois aux élections législatives, une fois au titre de la circonscription de leur résidence et une fois au titre de leur appartenance aux anciens élèves de leur université. Ce système fut étendu aux autres universités en 1918 avant d'être définitivement supprimé en 1950. Le royaume de Prusse, qui fut la principale composante de l'Empire allemand de 1871 à 1918, appliqua pour sa part de 1848 à 1918 un système original comportant trois classes d'électeurs définies par le montant de leurs impôts et le fait que chaque classe acquittait un tiers de l'impôt total. Plus précisément, les électeurs prussiens étaient rangés en trois classes d'impôts croissants, définies de façon telle que chacune acquitte un tiers de l'impôt total, puis chaque classe élisait un tiers des grands électeurs, qui eux-mêmes élisaient des députés. Les pays nordiques, Danemark, Norvège, Finlande, ont utilisé des systèmes censitaires relativement classiques avec deux classes au XIXe siècle. L'expérience suédoise de la période 1865-1911 peut se voir comme une généralisation de ce type d'approche. Les plus riches avaient jusqu'à 100 droits de vote dans les municipalités urbaines, voire une infinité de droits de vote s'ils étaient infiniment riches dans les municipalités rurales. Cela revient à organiser les assemblées politiques de la même façon que les assemblées d'actionnaires dans les sociétés par action. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les deux débats étaient explicitement et étroitement reliés dans le cadre des sociétés de propriétaires du XIXe siècle. Par exemple, au XVIIIe siècle et au début du XIXe, les compagnies par action au Royaume-Uni introduisirent graduellement des systèmes avec plusieurs classes de droits de vote, de façon que les plus importants apporteurs de capitaux aient davantage de voix, sans pour autant aller jusqu'à une proportionnalité pure et simple, car l'on craignait que cela conduise à une trop forte concentration du pouvoir au sein d'un tout petit nombre d'actionnaires et nuise à la qualité de la délibération et des relations entre associés. Typiquement, tous les actionnaires disposant d'un nombre d'actions supérieur à un certain seuil avaient droit au même nombre de votes, si bien que le nombre maximal de droits de vote était de facto plafonné. On retrouve ce même type de système aux États-Unis au début du XIXe siècle. De nombreuses compagnies utilisaient des droits de vote fixes, parfois avec plusieurs tranches, afin de limiter le pouvoir des plus gros actionnaires. Ce n'est qu'au cours de la seconde moitié du XIXe siècle que le modèle « une action, une voix » se généralisa et s'imposa comme norme principale, sous la pression des actionnaires les plus importants. Au Royaume-Uni, il fallut attendre la Company Law de 1906 pour que ce principe de proportionnalité entre nombre d'actions et droits de vote devienne dans la loi le mode de gouvernance par défaut des sociétés britanniques par action. Il est intéressant de noter que ces débats sur les systèmes électoraux dans les assemblées d'actionnaires, notamment les compagnies coloniales comme les diverses compagnies des Indes ou la compagnie de Virginie, et les assemblées politiques territoriales et parlementaires, avaient eux-mêmes été précédés par des débats complexes et anciens sur les règles de vote dans les assemblées ecclésiastiques. Ces expériences historiques ont une importance considérable pour un grand nombre de débats contemporains au sujet des limites à apporter au pouvoir de l'argent et de la propriété. Certes, personne ne semble proposer, en ce début de XXIe siècle, que les droits de vote dépendent de nouveau explicitement de la fortune des différents contribuables. Il n'en reste pas moins qu'un certain nombre de doctrines et d'idéologies développées au cours des dernières décennies aux États-Unis, en particulier par la Cour suprême, visent par exemple à justifier la suppression de tout plafonnement au montant des financements privés aux campagnes politiques, ce qui revient à accorder une influence électorale potentiellement sans limite aux plus fortunés. La question des limites à apporter ou non au pouvoir conféré par la fortune se pose également pour les inégalités juridictionnelles, le développement des arbitrages privés permettant par exemple aux plus aisés de contourner la justice publique commune, les admissions dans l'enseignement supérieur, de nombreuses universités états-uniennes et internationales admettant par exemple que les dons parentaux suffisamment importants puissent justifier l'admission de leurs enfants, sans aller toutefois jusqu'à l'explication publique complète de ces règles, ce qui est en soi intéressant, et ainsi de suite. Nous verrons également que la question des systèmes de droits de vote et de la répartition du pouvoir dans les sociétés par action a fait l'objet d'innovations majeures au milieu du XXe siècle. De nombreux pays, à commencer par la Suède et l'Allemagne, ont fortement réduit les droits de vote des actionnaires et augmenté d'autant ceux des salariés et de leurs représentants, entre un tiers et la moitié des droits de vote dans les conseils d'administration. Ces questions font actuellement l'objet de nombreux débats dans plusieurs pays qui n'avaient pas initialement suivi le mouvement, en particulier en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis, et pourraient fort bien conduire à d'autres innovations à l'avenir. Plus généralement, je veux de nouveau insister sur la diversité et la complexité des trajectoires politico-idéologiques et institutionnelles menant des sociétés trifonctionnelles anciennes au triomphe des sociétés de propriétaires au cours du XVIIIe et du XIXe siècle, puis aux sociétés social-démocrates communistes et néo-propriétaristes au XXe et au début du XXIe siècle. Une fois posé le primat du droit de propriété privée, réputé ouvert à tous, et le monopole de l'État centralisé sur les pouvoirs régaliens, justice, police, violence légitime, il restait de nombreux points à préciser, à commencer par les modalités d'organisation du pouvoir étatique. Dans certains cas, les sociétés d'ancien régime avaient été très loin dans la monétisation des rapports de pouvoir et des fonctions publiques. Par exemple en France, où la vénalité des charges et offices s'était généralisée au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. On mit en vente un nombre croissant de fonctions et charges publiques, notamment dans le domaine fiscal et juridictionnel. Cela était dû à la fois aux besoins financiers de la monarchie absolue et à son incapacité à développer des recettes fiscales suffisantes, et à une forme de logique propriétariste et incitative. Une personne prête à mettre sur la table un capital important pour pouvoir occuper une fonction publique ne pouvait pas être tout à fait mauvaise. À tout le moins, elle ferait les frais de ses erreurs et de sa mauvaise gestion, et elle aurait donc tout intérêt à se comporter au mieux pour le plus grand bien de la collectivité. On retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui des traces de cette logique. Certains emplois publics, par exemple des emplois de policiers dans plusieurs pays comme l'Indonésie, ou bien des fonctions fiscales importantes comme les trésoriers payeurs généraux en France, font l'objet d'un cautionnement, dans le sens où les titulaires de ces fonctions doivent consigner une somme d'argent importante avant de pouvoir occuper le poste, somme qui ne sera jamais restituée en cas de faute grave. En l'occurrence, la Révolution française fit le choix de mettre fin à la plupart des charges et offices, tout en prévoyant une compensation pour les détenteurs. La souveraineté publique ne pouvait être vendue à la découpe, mais il ne fallait pas pour autant brimer ceux qui avaient placé leur argent dans cette forme d'investissement. Ces débats montrent qu'il n'existe pas de forme unique à l'idéologie propriétariste, et ils ont là encore une résonance actuelle très forte. Car même si personne ne songe aujourd'hui à généraliser la vénalité des charges et offices, encore que la distribution de postes diplomatiques états-uniens aux principaux donateurs politiques s'y apparente, la remontée de la dette publique à des niveaux historiquement élevés dans les pays riches, dans certains cas à un niveau supérieur à la valeur cumulée de tous les actifs publics, est une évolution qui n'est pas tout à fait sans rapport, puisqu'elle revient à placer la maîtrise des deniers publics et des fonctions étatiques sous contrôle des créditeurs privés, et à étendre le champ de ce qu'il est possible de posséder, suivant des modalités différentes des charges et offices, mais avec le même effet concernant l'ampleur des détentions patrimoniales privées possibles, voire des effets plus massifs encore, compte tenu de la sophistication du système financier et légal actuel. Au XXIe siècle, comme au XIXe siècle, les rapports de propriété ne sont jamais définis de façon unique. Ils dépendent avant tout du système légal, fiscal et social que l'on se donne. C'est pourquoi il est impossible d'étudier le néo-propriétarisme du XXIe siècle sans commencer par analyser les différentes formes du propriétarisme du XIXe siècle. La dérive inégalitaire des sociétés de propriétaires au XIXe siècle. Voyons maintenant ce qu'il est possible de dire de l'évolution de la concentration de la propriété au Royaume-Uni et en Suède au cours du XIXe siècle et au début du XXe siècle, et de la façon dont ces trajectoires se comparent à celles observées en France. Précisons que si les sources successorales britanniques et suédoises ne sont pas aussi riches et systématiques que celles léguées en France par la Révolution, elles sont néanmoins largement suffisantes pour établir les principaux ordres de grandeur. Le résultat le plus frappant est que, malgré tout ce qui différencie ces trajectoires nationales, on constate dans tous ces pays un très haut niveau de concentration dans la propriété tout au long du XIXe siècle et jusqu'au début du XXe. Le point central est que les inégalités sont orientées à la hausse au cours de la Belle Époque, et que ce n'est qu'à partir de la Première Guerre mondiale et à la suite des violents chocs politiques des années 1914-1945 que l'on constate une forte baisse de la concentration patrimoniale. Cette conclusion vaut aussi bien pour le Royaume-Uni, voir graphique 5.4, et la Suède, voir graphique 5.5, que pour la France, ainsi que pour tous les autres pays pour lesquels nous disposons de sources historiques adéquates. La part des 10% les plus riches dans le total des propriétés privées, actifs immobiliers, professionnels et financiers, nets de dettes, passe de 85% 92% au Royaume-Uni entre les années 1780 et 1910, à 80% dans les années 50. En Suède, la part des 10% les plus riches passe de 84% 88% entre les années 1780 et 1910 à moins de 80% dans les années 50. La déconcentration se fait principalement au bénéfice des classes moyennes patrimoniales, les 40% du milieu. Plusieurs points méritent d'être précisés. Tout d'abord, le fait que la compression des inégalités patrimoniales ne débute véritablement qu'à partir de la Première Guerre mondiale ne signifie évidemment pas que le mouvement de réduction des inégalités n'aurait pas eu lieu en l'absence de la guerre. La dérive inégalitaire des sociétés de propriétaires au XIXe siècle, aux antipodes des promesses émancipatrices qui avaient suivi la fin des sociétés ternaires anciennes, reposait sur un système légal et fiscal spécifique. Et ces évolutions ont fortement alimenté le développement des mouvements socialistes, communistes, sociodémocrates et travaillistes de diverses tendances au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Comme nous l'avons vu, les mouvements en faveur du suffrage universel et de l'impôt progressif ont commencé à conduire à de premières réformes tangibles à partir de la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Il est vrai que ce n'est qu'après 1914 que ces évolutions firent sentir tous leurs effets, et en particulier que la progressivité fiscale atteint ses niveaux modernes, avec des taux d'imposition de plusieurs dizaines de pourcents sur les plus hauts revenus et patrimoines hérités, aussi bien en France qu'au Royaume-Uni, en Suède et dans l'ensemble des pays occidentaux. Mais outre qu'il est tout à fait possible de penser que les fortes tensions sociales et politiques liées à la dérive inégalitaire ont contribué à alimenter la marche en avant vers le nationalisme et la guerre elle-même, on peut fort bien imaginer des trajectoires événementielles au sein desquelles d'autres crises, militaires, financières, sociales ou politiques, auraient joué le rôle déclencheur. Nous reviendrons sur ce point lorsque nous examinerons la chute des sociétés de propriétaires au XXe siècle. Il convient également de noter qu'il existe des différences significatives entre les trois pays. La concentration de la propriété privée était exceptionnellement élevée au Royaume-Uni, un peu moins en Suède et encore un peu moins en France. Par exemple, la part des 10% des patrimoines les plus élevés dans le total des patrimoines privés dépassait 92% au Royaume-Uni à la veille de la Première Guerre mondiale, contre seulement 88% en Suède et 85% en France. De façon plus significative, la part des 1% des patrimoines les plus élevés atteignait 70% au Royaume-Uni contre environ 60% en Suède et 55% en France, mais plus de 65% à Paris. La plus forte concentration patrimoniale britannique s'explique en particulier par une concentration exceptionnellement forte des propriétés terriennes. Mais le fait est que, au début du XXe siècle, les terres agricoles ne représentaient plus qu'une petite fraction du total des patrimoines privés, à peine 5% au Royaume-Uni, entre 10% et 15% en Suède et en France. L'immense majorité des biens prenait la forme d'actifs immobiliers urbains, d'actifs industriels et financiers et de placements internationaux, et le système légal et fiscal permettant ce type d'accumulation était en première approximation tout aussi favorable aux propriétaires dans la France républicaine qu'au Royaume-Uni et dans le Royaume de Suède, quoi qu'aient pu en dire les élites de la Troisième République. Il ne s'agit pas de gommer ici les différences institutionnelles et politiques entre les différents pays qui étaient réelles. Il reste que, si l'on se place dans une perspective comparative et de longue durée, il existe des points communs extrêmement forts entre les différentes sociétés de propriétaires qui s'épanouissent en Europe au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Pour résumer, si l'on fait la moyenne sur la période dite de la Belle Époque, on peut dire que les sociétés de propriétaires européennes se caractérisaient par une inégalité patrimoniale extrême, avec environ 85-90% des propriétés détenues par les 10% les plus riches, à peine 1-2% par les 50% les plus pauvres et environ 10-15% par les 40% du milieu. Voir graphique 5.6. Si l'on examine maintenant la répartition des revenus, qui regroupe à la fois les revenus du capital, tout aussi inégalement répartis que les patrimoines eux-mêmes, voire un peu plus, et les revenus du travail, nettement moins inégalitaires, alors on constate que les sociétés de propriétaires européennes de la Belle Époque se caractérisent par une inégalité des revenus très forte, mais sensiblement moins extrême que leur inégalité patrimoniale, avec environ 50-55% des revenus allant aux 10% des revenus les plus élevés, 10-15% aux 50% des revenus les plus faibles, et environ 35% pour les 40% du milieu. Voir graphique 5.7. Cela nous fournit des points de repère et des ordres de grandeur utiles auxquels nous pourrons comparer les autres catégories de régimes inégalitaires que nous allons rencontrer dans la suite de ce livre. Les trois défis des sociétés de propriétaires. Récapitulons ce que nous avons appris sur les sociétés de propriétaires et voyons où nous en sommes dans notre enquête. Par comparaison aux sociétés trifonctionnelles qui reposaient sur des disparités statutaires relativement rigides entre clergé, noblesse et tiers-état, et sur une promesse de complémentarité fonctionnelle, d'équilibre et d'alliance entre les trois classes, les sociétés de propriétaires se sont appuyées sur une promesse de stabilité sociale, mais aussi d'émancipation individuelle au travers du droit de propriété, réputé ouvert à tous, indépendamment des origines sociales et familiales des uns et des autres. En pratique, cependant, au cours de la première phase de son développement historique comme idéologie dominante, c'est-à-dire au XIXe siècle et au début du XXe siècle, l'idéologie propriétariste s'est heurtée à trois difficultés majeures. D'abord, un défi inégalitaire interne aux sociétés en question. La concentration des richesses était démesurément élevée dans toutes les sociétés propriétaristes européennes du XIXe siècle, égale ou même souvent supérieure au niveau observé dans les sociétés d'ordre des siècles précédents, et en tout état de cause, beaucoup plus élevé que ce qui pouvait être aisément justifié au nom de l'intérêt général. Tout cela, alors même que le développement économique et industriel avait surtout besoin d'égalité éducative, et non pas d'une sacralisation du droit de propriété, qui finissait par menacer la stabilité elle-même. Stabilité qui est certes une condition essentielle du développement, mais qui passe aussi par un minimum d'égalité, ou tout du moins par la construction d'une norme d'inégalité raisonnable et acceptable pour le plus grand nombre. Ce défi inégalitaire conduisit à l'émergence des contre-discours, puis des contre-régimes communistes et social-démocrates à la fin du XIXe et au cours de la première moitié du XXe siècle. Ensuite, un défi inégalitaire externe et colonial. La prospérité européenne, de plus en plus manifeste relativement aux autres continents au cours des XVIIIe et XIXe siècles, était liée bien davantage à sa capacité extractive et à sa domination militaire, esclavagiste et coloniale sur les autres parties du monde qu'à sa supposée supériorité morale, propriétariste et institutionnelle. Cet argument moral et institutionnel a longtemps été utilisé pour justifier la mission civilisatrice occidentale, mais sa fragilité apparut de plus en plus clairement aux yeux d'une partie des populations colonisatrices et surtout aux yeux des populations colonisées qui développèrent des mobilisations puissantes pour s'en défaire. Les contre-discours et contre-régimes communistes et social-démocrates contribuèrent également à dénoncer cette dimension coloniale et à un degré moindre la dimension patriarcale de l'ordre propriétariste. Enfin, un défi nationaliste et identitaire. Les États-nations européens chargés de la protection des droits de propriété et de la promotion du développement économique et industriel sur de vastes territoires sont eux-mêmes entrés dans une phase de concurrence exacerbée et de durcissement des identités nationales et du système de frontières au cours du XIXe siècle, puis une phase autodestructrice entre 1914 et 1945. Ce processus était lui-même lié aux deux premiers, dans la mesure où les tensions sociales internes, comme les concurrences coloniales externes, contribuèrent fortement à la montée des nationalismes et à la marche vers la guerre qui devait emporter l'ordre propriétariste du XIXe siècle. L'un des principaux objectifs de cet ouvrage est d'analyser comment ces trois fragilités se sont conjuguées pour conduire à une crise extrêmement violente des sociétés de propriétaires au cours du XXe siècle, sous les coups notamment des guerres mondiales, du défi communiste et social-démocrate et des indépendances. Notre monde du XXIe siècle est directement issu de ces crises, même s'il tend parfois à en oublier les leçons, surtout depuis la renaissance d'une idéologie néo-propriétariste à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, à la suite notamment des désastres communistes. Mais avant d'en arriver là, il est temps de sortir de l'étude des trajectoires européennes et d'aborder l'analyse des sociétés esclavagistes et coloniales, et plus généralement, la façon dont la transformation des sociétés trifonctionnelles extra-européennes a été affectée par l'intervention des puissances propriétaristes et coloniales dans leur processus de développement.